Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode. Comme le dit Iris Naudin dans cet épisode, on associe trop souvent les administrations publiques à un vieux machin rouillé et poussiéreux, alors qu'à l'intérieur, il se passe des trucs. Comme vous l'aurez compris, voici un épisode avec un retour d'expérience, un Rex, sur les avantages et les inconvénients d'avoir travaillé au sein d'une administration publique française, mais aussi sur la posture du designer et plein de conseils utiles et précieux pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leurs inspirations.
Salut! La version que vous allez écouter est la version courte de l'interview de Iris. L'interview entière d'une durée de 1 heure est aujourd'hui disponible dans une version premium. Écouter Design Plus en version premium, c'est aussi soutenir le podcast. En devenant aujourd'hui une ou un abonné premium, vous me permettez de continuer à produire cette émission, à la développer et à vous proposer des épisodes inspirants. En vous abonnant à une offre premium, vous avez un accès privilégié. Vous obtiendrez un flux RSS de podcasts privés pour un contenu unique que vous pourrez continuer à écouter sur votre plateforme d'écoute actuelle. En tant qu'abonné, vous pourrez écouter tous les nouveaux épisodes quelques heures plus tôt que le public. Vous pourrez écouter tous les épisodes complets de tout le catalogue de Design Plus depuis 2019. Et bientôt, vous pourrez même devenir un membre exclusif de la communauté Design Plus. Et dans l'offre Super Premium, vous avez encore plus de privilèges. Finalement, suivre les épisodes de Design Plus en étant abonné Premium, vous vous aidez à devenir une ou un meilleur designer. Alors, faut-il vraiment s'abonner ? Absolument oui, car j'ai encore plein d'autres idées à vous proposer dans les prochains mois. Et ces nouveautés seront uniquement accessibles aux abonnés. Alors, pour vous abonner maintenant ou en savoir plus et écouter la totalité de cette interview, rendez-vous dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. Maintenant, je vous laisse écouter une partie de l'interview de Iris.
Bonjour à tous et bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'accueille Iris. Bonjour Iris, comment vas-tu ?
Bonjour Laurent, bah écoute, ça va très bien, je suis très contente d'être dans Design Plus.
Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît ?
Oui, moi je suis Iris Naudin. Je suis designer, j'ai été designer d'intérêt général pendant un peu 2 ans et demi et je suis passionnée par l'expérience utilisateur et par essayer de comprendre en général ce qui se passe dans la tête des gens.
D'accord, super. Alors donc aujourd'hui, l'épisode s'appelle « Faire entrer le design dans une administration publique ». C'est un peu un Rex que tu vas nous faire aujourd'hui sur ton expérience. Pourquoi d'abord tu voulais nous parler de ce sujet dans Design Plus, s'il te plaît ?
Alors, non seulement parce que effectivement moi, dans ma jeune carrière, et puis même avant, quand je travaillais dans le marketing, j'ai toujours travaillé pour l'intérêt général et en particulier pour le service public. Et parce que de base, en fait, on associe beaucoup aujourd'hui les administrations publiques à une vieille chose rouillée, poussiéreuse et à des personnels pas toujours motivés, alors qu'à l'intérieur, il se passe plein de choses, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour améliorer le service aux usagers et il y a des gens ultra motivés.
Ouais. Depuis quelques années, il y a eu un gros mouvement, j'ai l'impression, sur le design, on va dire, mis au service du public. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de choses qui ont été faites.
Hein. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je trouve que c'est visible, quand, notamment via des programmes dont on va parler plus tard, comme programme entrepreneur d'intérêt général ou les commandos UX, mais il y a effectivement dans les administrations, que ce soit au niveau du gouvernement, du coup, qui chapote un peu tout, mais même au sein des administrations même, il y a des efforts qui sont faits pour améliorer le service aux usagers, et pas que le service numérique, mais là, c'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, je pense.
D'accord. Et alors, comment quelle fonction t'as occupé et comment as-tu été recruté dans cette fonction? Comment t'es arrivé, en fait, dans ce poste?
Alors, pas tout à fait par hasard. J'allais dire par hasard, mais en fait, non. Donc, comme je le disais précédemment, j'ai toujours été intéressée par l'intérêt général et par le service public, par les ONG, par les associations. C'est de là que je viens. De base, j'étais bibliothécaire et après, j'ai pivoté. J'ai fait de la com et du marketing solidaire. Donc, c'est vrai que c'est un background que j'ai quand même qui est important et qui est vraiment très intrinsèquement lié à mes valeurs personnelles. Mais en tout cas, en ce qui concerne le designer d'intérêt général, en fait, j'ai découvert il y a 3 ans de ça le programme mené par, donc à l'époque c'était la DINZIC, maintenant c'est la DINUM, donc la Direction Interministérielle du Numérique, qui monte chaque année une promotion d'experts du numérique pour les placer dans des administrations publiques. Donc maintenant ça s'appelle Entrepreneur d'intérêt général, ça en est à sa 5e année d'existence. Et moi, j'ai fait partie de la promotion designer d'intérêt général qui ensuite a fusionné avec la promotion entrepreneur d'intérêt général numéro 4. Et donc, pour donner un exemple, les profils qui sont recrutés, originellement, c'était des duos data scientist developer. Après, la DINUM a décidé d'ajouter le profil designer et maintenant, ils ajoutent aussi des juristes dans les équipes qui sont placées dans les administrations publiques. Et donc, en gros, l'idée, c'est que les administrations déposent un dossier à la DINUM en disant « on voudrait avoir un designer, un data scientist, un développeur ». La DINUM examine leur dossier et ensuite se charge, entre autres, en partie du recrutement des designers et des data scientists et des développeurs et des juristes.
D'accord. Et donc, quel poste tu as occupé et comment dire, et quelles étaient tes fonctions, en fait?
Alors, moi, j'ai atterri au ministère de l'Intérieur, donc comme designer UX. Quand j'y suis arrivée, c'était pas forcément très, très clair ce que ça faisait un designer UX. D'ailleurs, on était deux avec mon binôme Nicolas Grandjean, à qui je fais un bisou s'il écoute le podcast. Et on a été recrutés tous les deux pour moderniser le dispositif de recrutement d'une des administrations du ministère de l'Intérieur. Donc, ça impliquait de créer un compte candidat et refaire intégralement le site qui était vieux et malade. D'accord. Et on a été recruté originellement pour 9 mois, puisque les promotions durent 10 mois maximum, de septembre à fin août. Ça doit faire 10 mois à peu près. Ensuite, on est resté et l'administration a souhaité nous garder parce que le projet n'était pas terminé et qu'il y avait vraiment un enjeu de concrétisation du projet.
D'accord. Est-ce que tu as choisi l'administration en question ou on t'a placé là, on t'a dit vous avez pas trop le choix, c'est là qu'il faut aller.
Alors oui et non. En fait, la promotion où au moment où j'ai postulé, et je sais que chaque année il y a des itérations qui sont faites sur les processus de recrutement des designers et de tous les autres profils, la DINUM proposait une palette de projets qui correspondait au projet qui avait été déposé par les administrations, en faisant un espèce de pitch de chaque projet auquel j'avais assisté. Donc les porteurs de projets dans les administrations venaient nous vendre leurs projets et pourquoi il fallait qu'on vienne chez eux. Et ensuite on avait 3 projets à mettre en avant sur lesquels on souhaitait se positionner. Et moi, je me suis positionnée, entre autres, sur ce projet de refonte, parce qu'à ce moment-là, dans ma carrière, il y avait d'autres projets qui étaient fantastiques, mais je me sentais pas forcément les épaules pour les encaisser à ce moment-là. Et tant mieux, parce qu'il y a eu des très, très beaux profils qui sont arrivés sur ces projets. Pour donner des exemples, il y avait un projet d'harmonisation, en tout cas de facilitation, du parcours de parents d'enfants en situation de handicap à l'Académie de Clermont-Ferrand. Il y avait un projet de création d'applications pour les espaces verts et les espaces naturels au ministère de l'Environnement, au Muséum d'Histoire Naturelle. Enfin, il y en a plein d'autres. Il y avait un projet de cartographie des fonds marins avec le CHUM, du coup, le centre pour les fonds marins. Donc, grosse diversité de projets. Aujourd'hui, ça prend plus une direction vers tout ce qui est données publiques, ce qui est un enjeu qui est très, très important pour les administrations. Et du coup, j'ai hâte de voir quels seront les projets qui seront sélectionnés pour la prochaine promotion.
D'accord.
Donc, ça devrait se passer dans les mois à venir.
D'accord.
Restez connectés.
Donc, en fait, tu continues à suivre les projets qui sont proposés ou mis en avant?
Oui, bien sûr. Enfin, moi, ça m'intéresse toujours parce qu'effectivement, je ne suis plus, malheureusement, je ne suis plus designer d'intérêt général, mais je suis toujours connectée au Slack. Je suis toujours en contact avec plusieurs designers de ce programme. On s'est tous un peu éparpillés à droite à gauche après la fin de la promotion des designers d'intérêt général. Il y en a qui sont partis dans les agences, il y en a qui sont restés dans leurs administrations, il y en a qui continuent à travailler en freelance avec les administrations en question. Et ça fait quand même une communauté, parce que du coup, 5 promotions à raison de à peu près une vingtaine de designers, enfin une vingtaine de profils à chaque fois, bah effectivement, ça fait du monde, ça fait des échanges qui sont vraiment exceptionnels, parce qu'on a tous des profils différents et qu'on a tous des expertises différentes, et c'est très très intéressant.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Quels étaient... qu'est-ce que tu as... Oui, tu disais que tu avais travaillé sur la refonte d'un site ou d'un projet. Et qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu as travaillé? Comment ça s'est déroulé, s'il te plaît?
Alors, ça a été tout un truc. Et je crois que ça a été aussi un des plus beaux projets que j'ai pu faire parce que... Quand j'étais free, j'arrivais à vendre des petits, je sais pas si ça se passe comme ça pour toi, mais j'arrivais à vendre des morceaux de grands process UX en 5 étapes, tels qu'on le voit illustré partout sur les internets. J'arrivais soit à vendre du cadrage parce que les clients venaient me voir parce qu'ils savaient pas ce qu'ils voulaient, ou alors ils arrivaient en mode, ah ben, on a besoin d'une refonte graphique, tu peux nous aider. Et du coup, moi, je refaisais la peinture et après, ils se rendaient compte qu'en fait, c'était le mur qui était pourri, donc on refaisait l'architecture de site. Mmh. Et là, c'était vraiment l'occasion d'avoir une espèce de carte blanche. Puisque dans ce programme entrepreneur d'intérêt général, et notamment avec cette promotion qui était la seule à avoir que des designers, il y avait une volonté de la DINUM de dire « Vous n'êtes pas là pour être des exécutants, vous êtes là pour remettre en question le brief de départ et apporter une dimension vraiment intrapreneuriale, parce qu'on était salariés de l'administration, mais un petit peu cette je ne sais pas comment le formuler, mais cette espèce d'état d'esprit d'entreprendre qu'on retrouve chez pas mal de freelances. Ouais. Donc, la première étape, ça a été vraiment de se dire, OK, on a un brief qui tient sur une page. Qu'est-ce qui se passe en vérité? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le diagnostique? Quels sont nos indicateurs de réussite? Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour la DINUM, la mise en place d'indicateurs de performance, ce qui est, en tout cas dans l'administration où j'étais, qui était une grande nouveauté. Ils ont un peu séché là-dessus, donc je les ai pas mal accompagnés. Et ensuite, on a pu vraiment dérouler toute cette méthode telle qu'on la connaît et qu'on l'aime, avec vraiment cette phase d'immersion, une phase de co-conception et une phase de d'itération successive pour parvenir à sortir un site. Alors moi, en général, la méthode en 5 parties, je la résume en 3 parties. C'est vraiment ces 3 phases-là, exploration, conception, itération. Parce que je me rends compte que ça fonctionne beaucoup mieux auprès de gens qui sont pas forcément très très ouverts au design et qui savent pas ce que c'est. Je l'ai honteusement volé à IDEO qui la modélise comme ça, et moi ça me semble beaucoup plus simple pour vulgariser le design. Et du coup, évidemment, vu qu'on arrivait dans un environnement où ils n'avaient jamais entendu parler de design expérience utilisateur, ça, il y avait aussi un gros volet de vulgarisation. Parce qu'effectivement, quand on est arrivé, les gens nous ont accueillis. Au mieux, on était des start-upers. Au pire, on était des infographistes. Donc, j'ai eu un gros travail d'expliquer en fait notre méthode. Non, on n'est pas des créatifs, on n'est pas, enfin si, évidemment, il y a une partie de créativité, mais on n'est pas des créas, on ne va pas faire des logos, on va faire quelque chose d'autre, on va s'appuyer sur une démarche qui est cadrée. On a une certaine forme de méthodologie, et c'est pas parce qu'on dessine des palmiers et qu'on colle des post-it partout que ça veut dire qu'on est des allumés du bocal. On est là pour faire quelque chose de méthodique. Mmh. Et ça a été un gros travail.
D'accord.
Et ça nous a pris 2 ans, du coup.
D'accord, ok. Et tu travaillais à temps plein sur cette mission, c'est ça?
Ouais, c'est ça. J'étais en CDD, donc d'abord pendant 9 mois, et ensuite ça a été prolongé.
D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels avantages, quels inconvénients t'as rencontré et avec toi, ton œil neuf, entre guillemets, à cette époque-là, venant de l'extérieur?
Alors vraiment, l'avantage, et ça, je remercie beaucoup les personnes qui sont déjà, qui ont choisi de faire appel à la DINUM. C'est que c'était des gens qui étaient déjà un peu convaincus de l'importance d'avoir un designer, et qui ont été vraiment nos premiers porte-parole au sein de l'administration. Parce que c'est vrai que alors, j'avais jamais vraiment travaillé, puisque j'étais freelance, je m'étais jamais intégrée à la vie d'une grande entreprise, parce que finalement, une administration, c'est en taille, c'est comme une grande entreprise. Et pour naviguer au début dans la complexité administrative, déjà de savoir où est la cantine, Voilà, tout ce genre de petits détails, c'est des choses pour lesquelles on a besoin que quelqu'un nous mette le pied à l'étrier. Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'avoir des gens qui étaient désignés par la DINUM comme nos mentors et qui étaient là pour nous aider à résoudre des problèmes. C'était vraiment très, très chouette. Autre avantage, c'était d'avoir le temps de dérouler, je l'ai déjà dit, cette méthodo qu'on voulait vraiment dérouler. Autre avantage, et on était quasiment les seuls dans ce cas-là, c'était d'être deux sur le projet, parce que sinon, un designer UX tout seul dans une administration, c'est quand même pas évident. Là, j'ai beaucoup, beaucoup pu m'appuyer sur mon binôme, que c'était vraiment très chouette de pouvoir travailler à deux et vulgariser à deux, de s'inspirer l'un de l'autre, parce qu'on n'avait pas forcément toujours les mêmes façons de travailler, donc ça, c'était très, très chouette. Et après, éventuellement, sur les quelques inconvénients, c'était effectivement cette méconnaissance et finalement, c'est un avantage et un inconvénient. Arriver justement un peu catapulté par un programme qui ne fait pas partie de l'administration en question, ça donne effectivement une sorte d'aura de créatif, d'expert, de sachant dont tu peux jouer en fait dans les premiers temps. L'inconvénient, c'est que ça peut aussi générer l'effet inverse de qu'est-ce que c'est que cette personne et qu'est-ce qu'elle vient foutre dans mon travail quotidien. Notamment auprès de gens qui avaient jamais entendu parler de design d'expérience utilisateur. Parce qu'effectivement, dans l'administration où j'étais, ça fonctionnait encore beaucoup en cycle en V ou en cascade. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges, enfin, il y a l'expression de besoin est faite par le métier, ça bascule à un autre service qui fait le cahier des charges, ça retombe sur le développeur qui se débrouille avec ce qu'il a compris du cahier des charges, et après, ça remonte en validation. Et à aucun moment, les utilisateurs sont sollicités. Donc, effectivement, il y a déjà eu un énorme travail de dire on va pas vous faire des maquettes tout de suite, on va pas lancer un truc en prod dans 4 semaines, on n'est pas là pour ça, il nous faut le temps d'explorer et de comprendre vraiment ce qui ne va pas et ensuite de concevoir ce qui pourrait aller et ensuite de le tester. Et ça, c'était quand même un énorme travail d'acculturation à faire pour que les gens comprennent qu'on n'était pas là juste pour faire des maquettes.
D'accord.
Mais ça, je pense que c'est un travail c'est un problème que rencontrent beaucoup de designers.
D'accord. Oui, tout à fait. Et tu as réussi à casser un peu ce rythme en V, ou peut-être pas de le casser complètement, mais d'instaurer des paliers avec des tests utilisateurs, des rencontres avec des utilisateurs ou des choses comme ça.
Dans la suite de son interview, Iris répond à cette dernière question sur ce qu'elle a mis en place et sur ce qu'elle aurait aimé faire. Elle explique aussi ce qu'elle a fait avec son binôme pour vulgariser l'UX design au sein de cette administration. Mais ce n'est pas tout. Elle vous fait aussi son retour sur cette expérience enrichissante et elle vous donne quelques conseils sur la posture du designer d'après elle. Donc, pour écouter la suite de cette interview et pour vous abonner, je vous invite à vous rendre maintenant dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. À bientôt sur Design Plus. Salut!
Design.